Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, voyons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 5. Verset 5, Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. » Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Voilà pour la situation de notre réflexion. J'aimerais attirer votre attention sur 5 points particuliers dans ce texte que nous allons passer par le détail et donner quelques commentaires. 5 points de réflexion. D'abord, le premier, c'est apprendre à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce que suggère cette parole. Le deuxième point, nous allons aborder les œuvres de Dieu, les œuvres merveilleuses de Dieu, les œuvres libératrices de Dieu et les œuvres du diable. Elles sont présentes aussi dans le récit que nous avons lu ensemble. Le troisième point que nous allons voir, c'est la confrontation entre le réel et l'illusion. C'est important. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans le réel, dans la réalité, alors qu'ils sont dans une totale illusion en raison de leur méconnaissance, en raison de leur ignorance. Et c'est aussi quelque chose qui mérite d'être expliqué. Le quatrième point, c'est s'approcher de Dieu. Comment s'approcher de Dieu? Quelles sont les conditions pour s'approcher de Dieu? Quelles sont les conditions pour pouvoir être agréé de Dieu? Et le cinquième volet de cette réflexion, c'est les liens et les méfaits de l'occultisme, puisque c'est le sujet qui nous interpelle ce soir à travers ce qui nous est présenté dans ce texte. J'ai intitulé ce message « Un loup déguisé ». Ça nous rappelle ce que Jésus nous a dit, dans le sermon sur la montagne, quand il parle des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, ils viennent ils viennent à vous comme des loups, mais au-dedans, ce sont véritablement des gens qui sont très dangereux, mais ils sont revêtus, ils sont habillés avec un vêtement de brebis. Alors le premier point, nous allons le détailler, c'est apprendre à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Tout lecteur de la Bible va se trouver à un moment ou à un autre confronté avec cette réalité du vrai et du faux. La Bible nous dit d'une manière très claire que, eh bien, ce message, c'est un message de Dieu qui nous dit la vérité. Alors après, nous avons qu'une déduction à faire par rapport à ce que nous croyons être la vérité, ce que nous savons être le faux, ce que nous voyons aussi autour de nous, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Donc c'est une question de discernement, mais nous sommes aidés, puisque nous savons que Jésus lui-même dira « Je suis le chemin, la vérité ». Alors, qui voulons-nous suivre ? Est-ce que c'est un homme comme Simon le magicien, qui pourtant, derrière des apparences, semble parler de Dieu ou faire des œuvres de Dieu, mais il n'en est rien. Alors, nous avons dans ce passage le vrai et le faux mis en présence, et après il sera temps pour nous de déterminer. Alors le vrai, je voudrais le rappeler à travers ces premiers passages de la lecture que nous avons fait. Un homme s'appelle Philippe. C'est un disciple de Jésus-Christ qui va se révéler un formidable évangéliste, quelqu'un qui prêche. Quelqu'un qui prêche le royaume de Dieu, qui va prêcher Jésus. Alors il nous est dit que Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha Jésus. Et les foules, toutes entières, étaient attentives à ce que disait Philippe. Ce que cet homme disait, les propos que Philippe tenait, eh bien, a suscité une grande émotion parmi ces gens de cette région, et ils étaient en effet interpellés, parce qu'il y avait là non seulement des accents de vérité dans cette prédication, il y avait la vérité. Et ça, ça les a bouleversés, donc ils étaient tout entiers attentifs à ce que Paul disait, et lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Il nous est donné confirmation et la preuve de ce que Jésus disait comme étant la vérité. Car, est-il ajouté, des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et poussèrent de grands cris. Et beaucoup de malades, donc paralytiques, boiteux, infirmes, furent guéris. Conclusion de cette prédication donnée par l'évangéliste Philippe, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une grande joie dans cette ville. Ça, ce sont les œuvres de Dieu. Quand Dieu fait les choses, il fait connaître sa parole. Il déclare sa volonté aux hommes. Ça passe par l'un, par l'autre, par Philippe en l'occurrence. Il y a là, eh bien, un intérêt pour écouter cette parole, comme nous le sommes ce soir, je suppose. Mais je n'en doute pas. Et il y a confirmation de ce qui est dit. Des guérisons, des signes, des miracles, des choses extraordinaires, et suivi finalement eh bien, d'un mouvement de joie, de quelque chose qui réjouit les hommes. Ça, ce sont les œuvres, finalement, de Dieu. C'est le vrai. Et puis le faux, il nous est simplement rappelé, un peu plus loin, il y avait auparavant dans cette ville un homme nommé Simon, c'est son nom, qui, se donnant pour un personnage important, quelqu'un qui s'était fait une réputation et il gonflait la poitrine parce que ce n'était pas le dernier des derniers, se croyait-il. Et ce qui faisait finalement eh bien, cette personnalité atypique ou hors du commun, c'est qu'il exerçait la magie, figurez-vous. C'était un magicien, c'était un occultiste, c'était un homme qui trafiquait avec le monde, finalement, eh bien, de la mort, nous pouvons dire, le monde des ténèbres. Alors il provoquait, il exerçait la magie, et il provoquait l'étonnement, eh bien, du peuple de la Samarie. Il y a là deux hommes qui sont en concurrence. Un est vrai, l'autre c'est un faux. Et tous les deux vont provoquer, finalement, la stupéfaction des gens. Le dernier qui arrive, c'est Philippe, il y a des miracles, il prêche, il apporte un message qui réjouit le cœur des hommes. Et puis le deuxième, qui est bien connu dans la contrée, lui aussi exerce la magie et il étonne aussi. Le même étonnement, mais la source n'est pas la même. La source n'est pas finalement identique. Alors tous, nous est-il dit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, c'est-à-dire âgé et enfant, quel que soit notable ou le simple homme du peuple, l'écoutait attentivement. Il y a toujours une écoute attentive dans les deux cas. Hein. Et ils se disaient les uns des autres, en parlant de ce personnage de Simon, celui-ci est la puissance de Dieu. Ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils avaient remarqué, c'est qu'il y avait probablement, eh bien là, une puissance au-delà de toute considération humaine, une puissance qui venait d'ailleurs et qui montrait, eh bien, que ce Simon avait reçu quelques dons ou quelque chose de particulier. Et nous voyons qu'il se disait donc, ça c'est la puissance de Dieu. Personne n'aurait pensé de dire c'était la puissance du diable. Celle qu'on appelle la grande. Alors il l'écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps, il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Qu'est-ce que vous voulez que le petit peuple de Samarie dise quand il voyait des choses comme ça? Et ils étaient devenus certainement, eh bien là, addicts à ce genre de phénomène. Parce qu'il se produisait des choses qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils n'auraient jamais pu comprendre si Philippe n'était pas passé par là pour montrer la différence. Pour faire finalement, eh bien, là, le distinguo entre la nuit et le jour, si on peut dire les choses de cette manière. Comme beaucoup de gens à notre époque, ils savent qu'il y a un monde bizarre qu'ils n'osent pas peut-être aborder, mais ils ne poseront pas de questions. Le monde des guérisseurs, le monde de l'occultisme, le monde de la divination, de l'astrologie, enfin, toutes sortes de choses. On en trouve la porte, mais on ne veut pas aller plus loin parce que on pressent que c'est un monde dangereux. Mais néanmoins, on y court. Peut-être poussé par des besoins existentiels ou des besoins nécessaires à satisfaire. Tant de malades, tant de gens qui sont dans l'infortune, qui sont là en train de tourner en rond dans une vie de médiocrité, se disent « Mais si un jour, eh bien, je pouvais recouvrer la santé, si un jour je pouvais gagner une somme d'argent, si un jour je pouvais avoir la chance, si un jour ma bonne étoile pouvait m'éclairer un petit peu. » Alors on court avec ces mots, vous comprenez? On va chercher, mais on ne veut pas aller plus loin. Alors, qu'est-ce que l'on pouvait dire de ce petit peuple de Samarie vis-à-vis d'un homme comme Simon qui leur mettait plein la vue? Voilà, plein la vue. Ouais, il a fait ceci, il a fait ça, il a fait cela, il a changé telle ou telle chose. Alors, on s'arrêtait à cette frontière, on n'allait pas plus loin. Mais par contre, on recourait à Simon quand les choses n'allaient pas. On se précipitait pour aller voir cet homme. Et lui, il grandissait de plus en plus dans l'estime des gens. Il se sentait un personnage. Il se croyait peut-être même Dieu, avec les pouvoirs de Dieu. J'ai ceci, donc je suis quand même un homme extraordinaire. Le vrai, le faux, apprendre à faire la différence. Apprendre à avoir du discernement. On ne met pas nos pieds n'importe où. On ne va pas chercher des solutions à nos problèmes vers n'importe qui. On ne cherche pas des remèdes à nos maux auprès de n'importe quel prétendu docteur. Enfin, je ne parle pas des docteurs en médecine, hein, mais ceux qui savent ce que nous ne savons pas, vous comprenez. C'est bien pour ça qu'on appelle ça les sciences occultes. La science. Je ne parle pas de la science médicale, je parle des sciences qui relèvent d'un autre monde, capables de faire des choses que le commun des mortels n'est pas capable d'envisager, ou même de produire. Alors on comprend que notre Simon était fier de ce qu'il était. Il pouvait se dire, mais moi je suis au-dessus de tous ces gens, parce que j'ai reçu quelque chose. Et il les étonnait, et tout le monde l'écoutait. Le deuxième point que nous avons évoqué, le premier c'était d'apprendre à faire la différence. J'ai essayé de voir un petit peu, à déblayer un petit peu là, la confusion. Le deuxième point, ce sont les œuvres de Dieu et les œuvres du diable. Alors on va aller un peu plus loin. On a posé le principe de la différence entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, le juste et l'injuste, le vrai et le faux. Maintenant, les œuvres de Dieu et les œuvres du diable. Alors je vais les rappeler, les œuvres de Dieu sont manifestes. Dieu parle aux hommes, et la manière dont il parle à travers d'autres hommes, qui sont comme Philippe, des prédicateurs, il prêche l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Annoncer, dire la vérité, parler de Dieu, parler de son royaume, sans oublier de parler de son salut, de l'œuvre de Dieu par excellence qui est l'expiation de Jésus à la croix, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions avoir la connaissance de ses promesses et de la bienveillance, de la bonté et de l'amour de Dieu pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'œuvre de Dieu, c'est de faire connaître au monde et de prêcher le Christ. Il nous est dit que Philippe prêcha le Christ. Et ça fait 2000 ans que ça dure, hein. Ça fait 2000 ans qu'il y a des hommes qui vont de par le monde, ici et ailleurs, et qui prêchent Jésus, qui ne prêchent pas une religion, qui ne prêchent pas le centre évangélique, par exemple, mais qui prêchent Jésus. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Confirmée, naturellement, par toutes sortes de miracles. C'est-à-dire que Dieu dit et il fait. Les hommes disent beaucoup, mais font peu. Et il y a des miracles. Libération des démoniaques, on l'a vu. Les paralytiques et les boiteux sont guéris. Et puis il y a ce couronnement, c'est cette grande joie. Dieu apporte la paix et il apporte la joie. Le contraire, c'est apporter la crainte et la peur. Ça, ce sont les œuvres, finalement, de Dieu. Dieu apportera toujours dans le cœur d'un homme, d'une femme qui écoute l'Évangile, la joie. Dieu ne fait pas peur, Jésus le dit très souvent dans l'Évangile, à la rencontre de ceux qui viennent vers lui, « Ne crains point, n'aie pas peur, c'est moi. » Donc ça, c'est un des critères. Le monde de l'occulte fait peur. La superstition fait peur aux hommes, inspire toutes sortes de craintes, d'effroi, de terreur même. Mais Dieu, dans son œuvre, eh bien, produit une grande joie. C'est ce que nous connaissons. Et cette grande joie est le produit d'une liberté que nous avons de nous approcher de Dieu et de lui faire confiance. C'est extraordinaire. Les œuvres du diable. Eh bien, ce sont des esprits impurs dominateurs. Vous avez remarqué avec moi? Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Les pauvres gens, ayant perdu le contrôle d'eux-mêmes, la raison d'eux-mêmes, ayant perdu finalement le sens même de leur existence d'homme, dominés par des esprits méchants, des esprits impurs, des esprits de tourment, toutes sortes de choses qui rendent ces hommes malheureux. Et ce sont des esprits donc tout simplement dominateurs. Ça, c'est l'œuvre du diable. Autant Dieu nous envoie son esprit pour nous libérer, qui produit la joie et la paix, autant le diable, c'est le contraire. Libération de cela, œuvre de Dieu. Esprit impur dominateur qui captive les hommes et qui les rend malheureux. Nous avons tellement d'histoires dans notre Bible et particulièrement dans l'Évangile où Jésus délivre, où les apôtres vont délivrer des hommes qui sont sous une possession, sous une habitation et qui sont malheureux. L'exercice de la magie qui provoque l'étonnement, ça c'est l'œuvre du diable. Cette fausse spiritualité qui amène les gens à être stupéfait parce que c'est surnaturel. Vous avez remarqué? J'ai pris la prononciation. Surnaturel, au-dessus du naturel. Et là, les gens, s'ils ne connaissent pas la Bible, ils ne peuvent pas savoir d'où ça vient. Ils ne peuvent pas donner d'explication. Ils diront, ah oui, c'est un bonhomme qui fait quelque chose, il a reçu un don. On dit que c'est un don de Dieu. Tout le monde dira que c'est un don de Dieu. Personne ne dira que c'est un don du diable. Exercice de la magie qui provoque l'étonnement. Et puis, dans le caractère même de cet agent mauvais, cet agent occulte qui est Simon, il nous est dit qu'il se donne pour un personnage important. Ça, c'est l'œuvre du diable, de faire des hommes des vaniteux. L'Évangile nous dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. On ne peut pas être orgueilleux quoique, et servir Dieu, ou autrement, on ne servira plus, et si on veut continuer à le servir, c'est Dieu qui va nous changer. Parce qu'on ne peut pas être orgueilleux, c'est pas possible. Et il se donnait pour un personnage important. Œuvre de Dieu, manifeste, on l'a vu, œuvre du diable, qui nous sont présentées. Le troisième point, c'est le réel et l'illusion. Aujourd'hui, nous parlerions d'un monde virtuel, avec Internet. Hein ? Il y a beaucoup de gens qui sont dans une autre stratosphère. Hein ? Et ça va poser des problèmes à notre société, parce que faut bien faire attention, hein, et on doit avoir les pieds sur terre, parce que c'est très très dangereux sur le plan de la société, sur le plan de l'éducation de nos enfants. Vous savez, entre toute cette avalanche de communication ou de films ou de toutes sortes de choses visuelles que l'on donne en nourriture morale, nourriture tout ce que vous voudrez, vous lui donnez le nom que vous voudrez, aux enfants avec de la violence, avec toutes sortes de choses, ça ce sont des virtuels. Et on le voit malheureusement dans certains pays, il y en a un particulier où les armes sont en vente libre, où là eh bien on ne fait pas la différence eh bien entre le virtuel et puis le réel. Et on a vu des choses extraordinaires qui nous étonnent, de voir un adolescent qui prend là un fusil mitrailleur et qui va tuer un 10, 15, 20 de ses camarades. Entre le virtuel et le rêve, le virtuel et puis la réalité, c'est deux choses différentes. Et dans ce domaine que nous sommes en train de parler, il y a le réel et il y a l'illusion. Et dans ce monde dont il nous est parlé, ce monde de l'occulte, Philippe annonce un Christ réel, un message réel qui peut être expérimenté pour tous ceux qui le croient. C'est quelque chose qui touche à la vie, à l'essence même de la vie. C'est réel. Même si on ne voit pas Dieu, il est réel. Et puis il y a tout un monde, en passant peut-être par le fait religieux, où c'est l'illusion. On fait croire toutes sortes de choses aux gens, toutes sortes de superstitions, toutes sortes de dogmes, toutes sortes de traditions, toutes sortes de choses en pensant que tout cela, eh bien, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui plaît à Dieu. Jusqu'à même l'idolâtrie, qui est une suprême offense et une abomination devant Dieu. Parce qu'on ne les a pas éduqués, parce qu'on ne leur a pas donné les bases de réflexion, parce qu'ils n'ont jamais ouvert une Bible, parce qu'on ne leur a pas prêché l'Évangile, parce qu'ils ne savent pas que Dieu est Dieu, et que Dieu parle vrai, et qu'il parle aux hommes. Alors le réel et l'illusion, il y a deux choses. Dans le réel, j'y classerai la foi, la confiance en Dieu. Ça, c'est réel. Vous allez me dire, comme nous en avons souvent parlé, « Mais Dieu, je ne le vois pas. » Alors comment peux-tu dire qu'il est réel ? Ben oui, mais nous avons aussi un autre moyen de percevoir la présence de Dieu. L'existence de Dieu, c'est par la foi. La foi, nous est-il donné cette définition ? C'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Et c'est parce que je ne les vois pas, ça n'empêche pas qu'elles soient réelles. Et la foi, je n'ai pas besoin de preuves. C'est quelque chose qui doit être une disposition morale dans mon cœur pour le croire que c'est vrai. Et c'est une puissance, la foi. Alors il y a dans le réel la foi. Écoutez bien, Paul, quand il est arrivé à Samarie, prêcha l'Évangile, prêcha le Christ. Et ce qui était réel, c'est que ce qu'il disait a attiré l'attention de tout ce monde. C'était une réalité. Réalité également par la confirmation de ce que Philippe disait, où il nous est dit que tous ces gens, quand ils apprirent, et ils ont vu les miracles. Ça, c'est du réel. Dieu dit et Dieu fait, c'est de la réalité. Et puis il y a son contraire, c'est la crédulité. La crédulité, c'est croire. Mais c'est croire ce qui est faux. La foi, c'est croire en Dieu. La foi, ce n'est pas une démonstration ou un sentiment religieux. La foi, je viens de le faire, la démonstration il y a un instant. Mais la crédulité, c'est un petit peu le no man's land. Vous savez, on ne sait pas tellement où ça se situe. C'est dans le doute. La crédulité, ou c'est peut-être même quelquefois jusqu'à son excès. C'est-à-dire de croire n'importe qui, de croire n'importe comment et de croire n'importe quoi. Et là, je peux vous dire qu'il y en a un qui est content. Parce que c'est son domaine. Autant la foi, elle est ciblée sur une personne, Jésus. Elle est ciblée sur, et s'appuie sur un objet qui est la parole de Dieu. Autant la crédulité, dans tous les domaines, elle n'est pas seulement religieuse, la crédulité. Elle peut être commerciale. Elle peut être politique, elle peut être sociale, c'est tout et n'importe quoi la crédulité. Il nous est arrivé quelquefois, et vous êtes au courant, il y a des histoires qui défraient la chronique, des gens qui sont tellement crédules, vous savez comment on les appelle? Des gogos. Ça va? On se dit, mais qu'est-ce qu'il est gogo? Il gobe. On lui fait croire une chose et puis il le croit tout de suite. Et il y a des arnaqueurs. Et il y a des gens malveillants qui engrangent de l'argent, hein, qui se disent, eh bien, allez-y, hein, vous pouvez y aller. Hein. Et plus le mensonge est gros, paraît-il, mieux ça marche. Ouais. La crédulité, Simon, un personnage douteux en qui on met sa confiance. Il est douteux et on met sa confiance. Et il suffit que le témoignage fonctionne bien. « Ah, il a fait ceci, il a fait cela, vous pouvez y aller, vous êtes malade, vous avez un bobo, vous allez voir. » Il va faire quelque chose et les gens courent. Mais c'est ce qui se passe encore 2000 ans après. Les gens, peut-être au bout de la science médicale, se disent « Eh bien, c'est pas possible. Vous avez toujours une bonne âme qui passe par là en disant « Mais vous savez, moi, j'ai vu, il a fait ceci, il a fait cela, vous pouvez y aller. » Mais les gens ne vont pas réfléchir, ils vont y aller. Premièrement, vous ne serez pas remboursé par la sécurité sociale, je tiens à vous le dire tout de suite. Mais ils captivent les gens. Ils mettent les gens, ils captivent l'âme et l'esprit des gens. Il n'y a pas de réflexion, ils sont prisonniers après. Ah oui, puis les gens sont convaincus parce qu'ils reviennent. Parce que je voudrais vous dire une chose, c'est que le diable est capable de guérir autant que Dieu. Oui, mais non, je me trompe de verbe. Il ne guérit pas. Il transfère le mal sur autre chose. Vous y allez physiquement? Combien de fois nous l'avons vu, des gens qui revenaient mentalement et moralement détraqués, psychologiquement, complètement à plat. Oh, ils étaient malheureux ou malades physiquement. Oh, ils ne souffraient plus physiquement. Mais quelquefois, ils sont tombés dans la dépression. Et de dire que l'occultisme et que tous ces trafics de ténèbres amènent les gens au suicide, moi, je le crois. Et puis dans d'autres domaines matériels, économiques, dans toutes sortes de choses. Attention, il y a un déplacement du mal. Ce n'est pas une guérison. Quand Dieu fait les choses, il guérit bien et totalement, complètement, parfaitement. Mais le diable déplace les choses. Alors, un homme douteux, qui abuse de sa prétendue importance. Il s'est fait une réputation, monsieur Simon, figurez-vous. Il est connu partout. Hein. Il est connu comme le loup blanc. Je vous ai dit qu'il était déguisé. Hein. Parce que blanc, ça inspire la pureté. Et c'est pas aussi pur qu'on le pense. Et puis, les effets de la crédulité populaire. Il nous est dit qu'il provoquait l'étonnement par les séductions et on disait, celle-ci est la puissance de Dieu. Vous vous rendez compte? Les gens n'avaient que ça. Ah, Simon, nous connaissons. Oh, mais c'est un homme extraordinaire, vous vous rendez compte? C'est la puissance, c'est Dieu qui travaille avec lui. Ça mérite d'être vérifié. Hein. Et aujourd'hui, quand quelquefois nous entendons parler, nous, ça nous fait un peu frissonner. Quand on entend parler d'occultisme, des guérisseurs et de tous ces gens-là, ça ne correspond pas finalement, eh bien, pas du tout même. Hein. C'est même aux antipodes de ce que nous annonce l'Évangile. Et quelquefois, nous entendons des appellations en disant « Mais vous savez, cet homme, il a reçu un don de Dieu. Ben, » faudrait peut-être vérifier d'abord d'où vient et quelle est la source, quelle est l'origine de ce don. Et puis toutes sortes de choses. Certains feront toutes sortes de signes, de mouvements kabbalistiques, toutes sortes de choses, au nom d'un saint ou d'une sainte, à travers des bénédictions, de médailles, de toutes sortes d'objets qui vont être des médiums. Voilà. À travers toutes sortes d'invocations, même quelquefois se servant des versets bibliques. Ça va loin, hein? Ça va loin. Et toutes sortes de choses. Eh bien ça, c'est les effets de la crédulité populaire. Et les gens sont rassurés parce que ils se disent, bien, c'est un curé qui fait ça. Parce que c'est arrivé hein, très très souvent. Ils avaient une spécialité, hein, je ne sais pas où ils en sont rendus aujourd'hui, mais certains en tous les cas. Hein. Alors on disait, mais c'est un curé, donc c'est la religion, ça vient de Dieu. Aucun problème. D'autres se réclameront de toutes sortes d'autres choses qui rassurent parce que ça semble être... Eh bien, réelle illusion, c'est à dénoter. Hein. Oui, il faut faire attention. Donc le premier point, apprendre à faire la différence entre le vrai et le faux. Deuxième point, les œuvres de Dieu et les œuvres du diable. Troisième point, le réel et l'illusion. et Simon avait berné tous les gens de sa région à Samarie. C'était un baratineur. Ouais, on peut dire ça comme ça. Philippe ne baratinait pas, il prêchait Jésus. Vérifiez. Le quatrième point, c'est s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, comment? Parce que une conversion, nous l'avons authentique. Et sa contrefaçon, Philippe était un homme véritablement converti à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il était devenu ce qu'il était devenu, prédicateur, ami de Jésus et ami de la vérité, prêchant la vérité qui est en Jésus. Mais la contrefaçon c'est quoi? Comment pourrait-on dire? Ce sont des apparences, mais ce n'est pas le réel. Ce sont des choses qui nous semblent être et qui ne sont pas, tout simplement. Simon le magicien, puisqu'on l'appelle comme ça, a une double nature. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, ou c'est un loup déguisé en agneau, en quelque sorte. Et on va voir la révélation qui est donnée de sa personne, de sa personnalité, de sa nature. Et je voudrais vous dire, avant que nous abordions ce sujet, le fond et la forme d'une véritable conversion. C'est important. Qu'est-ce que c'est d'être converti? Changer de religion, diront peut-être certaines personnes. De passer du catholicisme, eh bien là au protestantisme, ou du catholicisme, ou du protestantisme à l'islam et à toutes sortes de choses. C'est pas ça le mot conversion. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un langage erroné dans la bouche des gens qui dénote leur méconnaissance du mot. Une conversion est toujours précédée d'une repentance, d'une prise de conscience que nous sommes des pécheurs et que nous sommes perdus. Une conversion, c'est non pas une adhésion, mais c'est une reconnaissance de Jésus comme notre Sauveur et le Seigneur de notre vie. C'est ça la conversion. Il n'est pas question de religion. Je vous ai cité trois là. L'islam, le catholicisme, le protestantisme, et puis il y en a bien d'autres. On pourra en multiplier à l'infini, autant il y en a. Mais toujours est-il, ça ne sont pas des conversions. Mais une véritable conversion, Philippe était un homme vraiment converti. Mais il y avait aussi, tout simplement, sa contrefaçon. Et ça se vérifie dans le fond des choses. Je viens de vous le dire, le fond, c'est la repentance. Et c'est un don de notre vie à Jésus. Et la forme du vrai changement nous est donnée, par exemple, à travers le verset 12. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Voilà. Ça, nous avons finalement l'explication de ce qu'est s'approcher de Dieu. Mais on peut s'approcher vraiment, authentiquement, réellement de Dieu, comme Philippe, mais on peut s'approcher en faisant, en limitant, en quelque part n'étant pas sincère, on pourrait dire les choses comme ça. Je reviens. Mais quand ils eurent crié à Philippe, Philippe est le médiateur, c'est lui qui est le porteur de la parole, le message est toujours plus important que le messager, on est d'accord. On ne va pas faire de Philippe une idole, naturellement. Pourquoi ils écoutaient attentivement Philippe, et quand ils ont cru en lui? Parce que Philippe leur annonçait, non pas quelque chose qui venait de lui-même, mais il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça, c'est l'état de bénédiction des hommes qui veulent bien y croire. Ils rentrent dans un état de bénédiction, de pardon et d'une grâce éternelle de Dieu. Le royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, parce que le centre de son royaume, il y a un royaume, il y a un roi. Le royaume, c'est le royaume de Dieu, il vient de Dieu, et le roi, c'est Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Voilà le fond et la forme. Je crois que parmi tous ces hommes et ces femmes qui se firent baptiser, il y avait des gens sincères, et qu'ils l'ont fait parce qu'ils se sont repentis. Philippe a dû certainement leur dire que c'était la porte d'entrée, et ils ont voulu finalement, dans la forme, montrer qu'ils étaient devenus chrétiens, qu'ils avaient renoncé au diable, à Satan, à toutes ces choses terribles. Hommes et femmes se firent baptiser. Le baptême évangélique, le baptême de l'évangile, le baptême des premiers temps, le baptême chrétien, c'était des hommes et des femmes et pas des petits-enfants. Allez demander à un petit bout de chou, 6 mois, au moins 2 mois, d'être baptisé, de dire « Mon petit, qu'est-ce que tu as choisi? Tu crois en Jésus ?» Lui, il croit encore une chose, dans son biberon, c'est tout. Oui. Vous rendez compte l'aberration? L'aberration? Alors on va dire oui, mais on a arrangé la chose. On va lui donner un parrain et une marraine. C'est une affaire personnelle, le salut, non? Me semble-t-il. Alors, bon, tout ça c'est... Ouais. Et le contraire est dévoilé. Au verset 13. Simon crut lui-même, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges que Philippe produisait. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé en panne, ça ne marchait plus pour lui, là, à un moment donné. Ça ne marchait plus. Simon crut lui-même. Mais permettez-moi de dire ce soir, il y a croire et croire. Il y a croire de son cœur, de tout son cœur, avec une sincérité, avec véritablement, sous l'action du Saint-Esprit, nous naissons de nouveau. Ça, ce sont ces hommes et ces femmes qui vont donner la ligne de ce qui est dans le fond et dans la forme, une véritable conversion. Mais l'autre, mais Simon, on va le découvrir d'ici un instant, c'était du tape à l'œil. Il a voulu, finalement, quand il a vu la puissance qui se manifestait dans l'évangile que prêchait Philippe, il s'est dit, moi, il faut absolument que je rentre dans cette filière. Il faut que je fasse comme tout le monde. Autrement, je vais perdre toute ma clientèle. Eh oui. Alors, il a cru. Je crois. Mais c'est facile de dire je crois sans croire. Qui peut le vérifier? Ça se vérifiera par le temps. Ça se vérifiera par les œuvres. Et ça se vérifiera par les actes. Alors, il s'est fait quand même tout simplement baptiser. Et il collait à Philippe. Il nous a dit qu'il ne quittait pas Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Mais il avait quelque chose en tête, le père Simon. Il se dit, moi je vais tirer parti de la situation. On va voir comment ça se passe. Il s'était caché en chrétien. En chrétien baptisé. Faisons attention, hein, parce que ça peut arriver. En chrétien baptisé. Et il était devenu un fervent suivant de Philippe. Ce qui nous amène à dire que l'habit ne fait pas le moine, tout simplement. Le cinquième point maintenant, et je termine, les liens et les méfaits de l'occultisme. Alors on va lire ce qui nous est dit. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, c'est ce que nous venons de dire, d'une manière étonnante, un véritable souffle de l'esprit, un réveil assurément, y envoyèrent Pierre et Jean. Voilà, deux fidèles de Jésus qui ont connu Jésus, délégués pour aller voir ce qui s'y passe. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Première chose. Vous savez ce qu'il nous est dit du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean? Il nous est dit que c'est l'Esprit de la vérité. Et que cet Esprit de la vérité nous conduira dans toute la vérité. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord s'être repenti. Il faut être converti à Jésus-Christ. Il faut être né de nouveau. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, aussi grand, en grand nombre, que le Seigneur les appellera. C'est pas nous qui appelons les hommes, c'est Dieu qui appelle les hommes pour en faire finalement ses enfants. D'accord? Et il nous est dit que ils ont prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit est là, quand il est dans les cœurs et dans les vies, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ouvre la vérité. Esprit de vérité. Il nous met en face de la lumière. Et quand on est dans la lumière, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'autour de nous, il y a des ténèbres. Ouais. On comprend certaines choses. C'est pour ça que la conversion d'un homme, eh bien, c'est une transformation, c'est une révolution. Les choses qu'il ignorait, les choses qu'il ne savait pas, les choses qui étaient auparavant pour lui de véritables mystères vont devenir des choses d'une réalité extraordinaire et magnifique. Ça, c'est beau, c'est magnifique tout cela. Alors, ils ont prié pour que le Saint-Esprit vienne, car il n'était pas descendu encore sur aucun des Samaritains et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est le premier baptême dont nous avons parlé tout à l'heure. Hommes et femmes se firent baptiser. Maintenant, il y avait une autre, troisième étape. C'était une autre étape, c'était celle d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça que les amis qui nous rejoignent, et peut-être pour ceux qui sont là ce soir et que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, sachez que le Seigneur veut vous baptiser du Saint-Esprit. Si vous le demandez, vous allez le recevoir. Il n'y a pas de raison que vous ne le receviez pas si vous le croyez. Il se passe une chose après. La chose est la suivante, c'est que alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, écoutez, et ils reçurent le Saint-Esprit. Pierre, Jean ont prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais voilà notre personnage qui réapparaît. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Tiens, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Il est futé, hein, notre Simon. Hein. Il n'est pas tout à fait converti. L'eau du baptême ne l'a pas décrassé. L'eau du baptême ne l'a pas lavé de ses turpitudes, de cette tournure d'esprit inique. Donnez-moi de l'argent. Vous savez, écoutez, je voudrais le dire solennellement, toute religion qui met l'argent en premier, c'est pas une religion de Dieu. C'est une religion de Simon le magicien. Et vous savez comment on appelle ça? La simonie. Hein, dans le dictionnaire, vous regardez, la simonie, c'est venu de là. L'argent. C'est horrible. Hein? Alors, il va dire, mais accordez-moi ce pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Il ne cherchait pas le Saint-Esprit, il cherchait le pouvoir. La question est là, elle est exposée. Ce sont les liens et les conséquences de ces liens de l'occultisme. C'est la nature d'un cœur mauvais et équivoque qui nous est présentée à travers ces versets que nous avons lus. Simon, le magicien, est un homme vénal, c'est un cupide. Toute sa vie tourne autour de l'argent. Je vous donnerai de l'argent. Alors, pensez que Pierre et Jean, qui est à la belle porte du temple, dira à un paralytique un beau jour, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. » Alors, c'était pas lui qui allait recevoir l'argent. Hein. Pas du tout. Hein. Simon recherche une puissance dominatrice pour éblouir. Parce que là, si vous me donnez ce don, moi je vous donnerai de l'argent. Mais si j'ai ce don du Saint-Esprit, j'imposerai les mains aux gens. Et ils diront que j'ai encore une puissance encore plus forte que celle que j'ai eue jusqu'à maintenant. Éblouir et soigner ses intérêts, devenir un homme investi de pouvoirs surnaturels et se faire une nouvelle réputation. Il n'allait plus toucher visiblement à l'occultisme comme il était dans son occultisme païen. Mais là maintenant, l'occultisme allait devenir chrétien. Vous vous rendez compte? Le christianisme allait devenir occulte. Waouh! Là, on est en train de... Vous avez un parachute? J'ai bien dit. Le christianisme allait devenir occulte. L'évangile allait devenir occulte. Vous allez me dire, mais il est complètement tombé sur la tête, ce soir il divague. Non, non, je divague pas, je suis encore à peu près bien. Hein? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une telle équivoque, s'il y a une telle confusion dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde religieux d'aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a un jour, un Simon, le magicien, qui a fait entrer cette peste. Ce mélange, cette marée noire, cette mort, en mélangeant le christianisme et en mélangeant le paganisme, en mélangeant la vérité avec l'occultisme, en mélangeant les ténèbres avec l'erreur, et présenté sous le nom et sous l'aspect de la religion, ça se voit comme du petit lait, les gens n'y voient rien. Ils n'en voient que du bleu. Enfin, vous pouvez multiplier tout ce que vous voudrez, hein. Toutes les couleurs si vous voulez, et vous allez en voir de toutes les couleurs. Ça, c'est sûr. Et la dénonciation est sévère, mais elle est nécessaire. Verset 20. Je poursuis. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voilà ce que Pierre va lui dire. Vous comprenez que Pierre, il n'allait pas tendre la main pour aller recevoir de l'argent. Hein? Pierre est un homme honnête. Un homme probe qui ne veut rien avoir à faire avec toutes les histoires saletés, souillures et magouilles et compagnie. Hein. Excusez-moi. Hein. Aucun don, Pierre fait comprendre à Simon, aucun don de Dieu ne s'acquiert par le mérite et encore moins par le droit. J'ai droit, Seigneur, à ce que tu me bénisses parce que tu te rends compte, je me suis fait baptiser. Tu devrais être content. Ben, vous savez, il aurait mieux valu qu'il ne se fasse pas baptiser. Hein. Parce que pour en arriver à des situations comme ça, moi je dis que il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que l'apparence. Il n'y a que la phraseologie. Les mots sont là, mais le cœur n'y est pas. Il n'y a que la forme, mais le fond n'y est pas. C'est terrible. Hein? Parce que la grâce de Dieu, parce que les dons de Dieu, c'est toujours une grâce. C'est par la foi que vous êtes sauvés, nous dit l'apôtre Paul. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Vous savez pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Quand je mérite un don, quand au prix de mes efforts, Dieu me donne quelque chose, et c'est plus une grâce, c'est un salaire. Alors je peux dire, je suis meilleur que les autres. C'était le problème des pharisiens, ça. Ils pensaient de cette manière. Et là, Simon pensait de cette manière aussi. Et voilà que la voie du salut va être dévoilée. Tout simplement, le verset 22. Repens-toi donc, lui dit Pierre, de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Alors là, il y a toute une prédication qui montre la voie du salut. D'accord? Simplement ce petit texte, c'est l'évangile entièrement, l'évangile de la repentance, l'évangile qui amène les hommes qui sont dans l'erreur, mais qui reconnaissent leur erreur, le désir de changer. Et il y a une porte pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et à cette porte, il y a une clé. Et cette clé, c'est la repentance. Sans cette clé, je ne rentrerai jamais. Je peux avoir l'illusion d'être rentré, mais je serai toujours dehors, en pensant que je suis dedans. Ça, c'est la voie du salut qui nous est demandée. C'est la repentance. Et vous avez remarqué, quand il est dit à un moment donné, repens-toi donc de ta méchanceté. Vous savez que le mot méchanceté vient d'un mot méchant, mal, malin. On a tout de suite l'inspirateur, pas l'aspirateur. L'inspirateur, celui qui fait que le cœur de l'homme est méchant, par-dessus tout, injuste, faux. L'homme qui ne connaît pas Dieu s'est fait sa propre morale. Il s'est donné sa propre conscience. Mais pourtant, dans cette affaire, bien qu'il ait été baptisé, le brave, il n'était pas converti du tout. Il ne connaissait pas Dieu. Parce que s'il avait connu Dieu, ça aurait été un autre homme. Et Pierre a l'outrecuidance de lui dire « Mais repens-toi de ta méchanceté, parce que ton problème, c'est parce que tu es un homme méchant. Et tu sers celui qui est le malin. Celui qui est le mal personnifié. » Vous savez comment il s'appelle? Le diable. Parce que l'occultisme, ça vient du diable. L'occultisme et le monde des ténèbres, ça vient du malin. Ça vient de Satan. Toute la Bible est là pour nous le dire. Les gens, peut-être, aujourd'hui, nous diront, mais ils sont complètement tombés sur la tête, ces chrétiens. Ils croient encore à des choses comme ça. C'était bon pour le Moyen-Âge. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que le diable n'a jamais été aussi présent dans notre temps que même peut-être dans les temps passés. Et attendez, il se prépare à quelque chose, hein. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse et tout le reste, l'Apocalypse est un livre formidable, c'est un livre d'espérance pour ceux qui croient, mais c'est un livre qui est en train de nous dévoiler tout le chemin chaotique, dramatique, mortel, meurtrier pour tous ceux qui sont en dehors de cette foi en Jésus-Christ. Alors, repentance de ta méchanceté, priez pour être pardonné parce que tu es rempli d'un fiel amer. Et ce fiel amer a donné le mot amertume. Vous savez ce que c'est que le fiel? On en mange tous les jours, non? Si vous aimez l'amer, vous allez être servi, hein. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est insoutenable dans la bouche. Un fiel amer. Ça voulait dire, mais regarde, tu as demandé au prix d'argent d'avoir le Saint-Esprit, mais tu y es pas, mon pauvre Simon. Tu te rends compte? Tu es jaloux de Philippe. Et la jalousie, la convoitise, la concurrence, ça vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Et là, il faut se repentir. Ce sont des péchés qui sont quelquefois banalisés, mais qui sont peut-être encore plus importants que l'adultère et tout le reste. Ah oui, parce qu'on a fait des petits et des grands péchés. Il n'y a pas de petits ni de grands, il y a le péché, c'est tout, point final. Les liens d'iniquité, la pratique occulte, aveugle spirituellement. Et à chaque fois qu'on touche à l'occultisme, de près ou de loin, il y a cette capacité que Dieu a donnée à tout homme, puisqu'il a mis la pensée de l'éternité dans son cœur, qui s'amoindrit de plus en plus, l'homme devient aveugle sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan des réalités invisibles. Il devient de plus en plus aveugle. Combien de fois nous avons eu ces confessions de gens qui nous ont dit qu'ils avaient traîné dans le monde de l'occulte ? Et quand on leur a prêché l'évangile, ils venaient nous dire très souvent « Mais je ne peux plus croire, je voudrais bien croire, mais je ne peux plus, je suis dans l'incapacité de croire. » Eh bien, pour ouvrir cette nouvelle porte, pour que vous puissiez croire à nouveau, il faut demander pardon à Dieu de toutes les pratiques, de toutes les choses dans lesquelles vous avez été entraîné. Vous n'êtes peut-être pas les responsables, mais vous avez touché. Et il faut demander à Dieu. Vous avez été voir les guérisseurs, demandez pardon à Dieu. Vous avez voulu savoir un peu votre avenir, demandez pardon à Dieu. Quand Jésus nous dit, mais ne vous inquiétez pas du lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. Lui-même nous conduit dans l'avenir et dans notre devenir. Mais ce n'est pas la peine d'aller frapper à toutes ces portes de cabinets obscurs et occultes pour aller savoir ce qu'il nous faut. La boule de cristal, les cartes, le tarot et tout ça. C'est dangereux, dangereux. C'est pour ça que j'ai commencé le message en disant la différence entre la vérité et l'erreur. Et là, vous êtes servis ce soir, hein. Enfin, j'essaie de vous servir gentiment. Et je termine le dernier verset. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Non, ce n'était pas les apôtres qui ont dit. C'était Dieu qui a dit. Et lui, il remet les choses sur le plan terrestre. « Vous avez dit qu'il allait m'arriver une catastrophe. » Mais combien de fois, lui, il a dit aux autres des inepties, des mensonges, et qui a entraîné les hommes qui l'écoutaient avec complaisance, puisque tout le monde le tenait pour la puissance qui vient de Dieu. Combien de fois il a raconté des bêtises. Et là, maintenant, la bêtise, c'est lui. Vous avez, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit, priez vous-même. On a parlé de la repentance, et là, vous avez le magnifique éclat d'une non-repentance. Je vais vous dire pourquoi. Il ne s'est pas repenti. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, le Simon, là. Mais toujours est-il qu'il a fait des émules après. Oui. Mais il ne s'est pas repenti, c'est la non-repentance. Parce que la vraie repentance dépend de notre choix personnel. Ce n'est pas les autres qui vont se repentir pour nous. Moi, je ne veux pas aller me repentir pour un tel ou un tel que j'ai entendu. Ça ne sert à rien. C'est moi-même, personnellement, il s'agit de mon salut, il s'agit du pardon de Dieu pour moi, et je ne veux pas le faire pour les autres. Quand on a inventé le confessionnal, qu'on va raconter un peu notre vie, belle ou vilaine, et qu'un homme a l'autorité de dire, voilà, au nom de Dieu, tu es pardonné, mais attendez, ou là où on est sur une autre planète, parce que c'est personnel la repentance. Et on s'adresse, c'est l'homme avec sa misère morale et spirituelle qui demande pardon à Dieu. Et c'est Dieu qui lui donne, finalement, son pardon. Mais ce n'est pas la peine d'aller voir un intermédiaire. Ne venez pas me voir. Il n'y a pas de confessionnal ici. Puis moi, je n'ai pas besoin de savoir. On peut partager les choses, on peut prier ensemble, mais c'est vous. Vous, Dieu, vous. L'un et l'autre. « Priez vous-même pour moi, dit-il. » Et là, en disant cette dernière parole, nous nous apercevons que Simon, le magicien, met en évidence, il met à jour quel maître il sert. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on va servir Dieu, et on est dans la vérité du Seigneur. Ou alors on sert Mammon. Ben, ça tombait bien pour lui, parce qu'il aimait les richesses. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas servir. Il est en train de déclarer qu'il est resté toujours dans le même camp. Oh, l'apôtre Paul nous donne cette parole, il faudrait que je la retrouve, mais bon, je peux la citer de mémoire. Mais il nous donne cette parole quand il dit ceci. Voilà. Dieu l'appelle, Paul, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi, dit Dieu à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des hommes, des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, en Jésus-Christ, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Qu'est-ce qu'il en a fait, Simon ? Rien du tout. Il a montré d'où il venait, là où il était, et là d'où il n'est jamais sorti. Même avec les apparences, finalement, d'un christianisme qui n'était absolument, qui n'avait rien à voir avec le christianisme de l'Évangile. Alors que Dieu nous bénisse, ce soir, apprendre à faire la différence entre le faux et le vrai, à discerner les œuvres du diable et les œuvres de Dieu, savoir si nous sommes dans le réel ou si nous sommes dans l'illusion, s'approcher de Dieu à travers une véritable et sincère repentance, et les liens et les méfaits de l'occulte ou de l'occultisme. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier maintenant et demander à Dieu qu'il passe dans nos vies sur son, par son Saint-Esprit et que nous, là, eh bien, nous lui demandons qu'il crée en nous un cœur pur et un esprit bien disposé et qu'il nous donne d'aimer la vérité. Et Simon n'aimait manifestement pas la vérité et la justice. On va prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle est faite pour nous ce soir. Mais elle a été faite Seigneur pour tous les hommes dans tous les temps, dans toutes les époques. Et elle est faite Seigneur pour ceux qui l'entendront demain, pour ceux qui viendront, qui liront ta parole et qui seront confrontés avec, eh bien là en effet, cette histoire qui nous montre bien où se situent les frontières, où se situe Seigneur la ligne de démarcation entre Dieu et le diable. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Et nous te louons, Seigneur, parce que, en effet, ce soir, si quelquefois nous avons, ou parfois nous avons touché, Seigneur, ou nous sommes tentés pour l'occultisme, pour la magie, pour l'horoscope, pour, en effet, César occulte et divinatoire, Seigneur, si nous y avons touché, ou si nous avons la tentation, Seigneur, d'y aller, eh bien, nous te demandons pardon. Nous te demandons, Seigneur, que tu crées en nous, vraiment, Seigneur, une sincère repentance, afin que nous ne tournions plus vers ces choses de néant, ces choses mortelles, ces choses dangereuses, cette marée noire, mais que nous puissions vraiment nous tourner vers toi. Accepter Jésus comme notre sauveur personnel, lui donner toute la place dans notre cœur et dans notre vie. Toi, tu produiras cette nouvelle naissance, être un homme, une femme nouveau. Et puis, Seigneur, d'être pardonné comme tu le fais, comme tu veux le faire pour tous ceux qui sont sincères et droits de cœur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.